RFI, bonsoir, 17h TU, 18h ici à Paris, 19h à Gaza et Jérusalem.
Nicolas Brousse.
La libération pour la bande de Gaza, les armes se sont tues entre Israël et le Hamas depuis ce matin, entrée en vigueur de la trêve. L'heure est à l'échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens, au retour chez soi pour les déplacés gazaouis qui voient entrer des camions chargés d'aide humanitaire. Non résidents, non européens, vous ne pourrez plus acheter d'immobilier en Espagne. C'est en tout cas le souhait exprimé aujourd'hui par le Premier ministre espagnol qui multiplie les annonces chocs pour lutter contre la spéculation et la crise du logement. Jour J demain pour l'investiture de Donald Trump avec 600 invités, pas plus, car la cérémonie aura lieu exceptionnellement à l'intérieur du Capitole à cause de la météo qui s'annonce glaciale. Résultat, pour y assister, les places sont chères, plus chères que jamais. Et juste après ce journal, dans 10 minutes, idée avec Pierre-Edouard Deldic, à la veille de cette investiture, un invité, Rana Levy, historien, philosophe, spécialiste des sciences politiques. La trêve est donc bien devenue réalité entre Israël et le Hamas. Cela se traduit très concrètement par un arrêt des combats. La libération par le Hamas de 3 premiers otages israéliens, 3 sur les 33 prévus au cours de cette première phase. Il s'agit de 3 jeunes femmes enlevées pendant le festival Nova le 7 octobre 2023. Des otages en échange de prisonniers palestiniens, 737 concernés sur les 6 semaines à venir. La plupart des noms annoncés sont ceux de femmes et d'enfants, mais Théo Renaudon, il y a aussi des militaires palestiniens accusés de terrorisme.
Oui, par exemple, Mohamed Abou Warda, lui, est condamné à 48 ans de peine de prison pour 2 attentats à Jérusalem il y a 29 ans. Attaque pour le compte du Hamas, bilan 45 morts. Autre profil qui devrait être libéré selon la presse israélienne, Tabet Mardawi, haut responsable du djihad islamique, arrêté il y a 23 ans pour avoir assassiné 20 Israéliens et blessé 150 autres, condamné lui à la prison à vie 21 fois par la justice israélienne. De probables libérations qui scandalisent les familles endeuillées de ces attentats, dépôt de recours devant la justice, déboutés, les juges estiment qu'ils n'ont pas à interférer. Sur les 95 noms publiés jusqu'ici, notez quand même que seuls 10 sont condamnés. Tous les autres sont pour la plupart des femmes et des enfants. Ils doivent être transférés vers Jérusalem, la Cisjordanie et Gaza dans des bus israéliens pour éviter, je cite, toute expression de joie.
Précision de Théo Renaudon. La trêve débloque aussi de l'aide humanitaire. 260 premiers camions ont pu entrer aujourd'hui dans la bande de Gaza, dont 16 chargés de carburant, et des milliers de Gazaouis ayant fui combats et bombardements rentrent chez eux en ce moment, même si pour la plupart ce sont des ruines qui les attendent. L'ONU parle d'un niveau de destruction sans précédent dans l'histoire récente. Il faudra des milliards pour reconstruire. Cette trêve attendue depuis 15 mois est donc très majoritairement perçue comme un soulagement, à quelques exceptions près. Ainsi, le ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, et son parti, la Force juive, annoncent qu'ils quittent la coalition gouvernementale. À Jérusalem, Michel Paul.
Les lettres de démission sont parties, c'est mardi matin qu'elles entreront en vigueur. On peut dire qu'Itamar Ben-Gvir a tenu parole. Avec son parti, la Force juive, il quitte le gouvernement et la coalition. Il a indiqué qu'il démissionnait en raison de la signature de l'accord. La procédure engagée est dangereuse et irresponsable, affirme-t-il. Il faut le souligner, cela n'affecte pas la mise en œuvre de la trêve, du moins pour ce qui est de la première phase. Mais Benjamin Netanyahou se retrouve avec une majorité inconfortable de 62 sièges sur les 120 que compte le Parlement israélien. Pour plus de précautions, les 3 ministères devenus vacants resteront aux mains du Likoud, le parti du Premier ministre. Netanyahou fait maintenant tout pour que le sionisme religieux, l'autre formation d'extrême droite, ne suive pas l'exemple de Ben-Gvir. Bezalel Smotrich a voté contre l'accord, mais sans quitter le gouvernement. Il promet de le faire si les combats ne reprennent pas à l'issue de la première phase. Un choix très difficile pour Benjamin Netanyahou. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
100 millions de pilules de Captagon détruites aujourd'hui en Syrie par les nouvelles autorités qui veulent ainsi montrer leur volonté de rompre avec le passé. Cette amphétamine était produite à l'échelle industrielle sous le régime de Bachar el-Assad qui avait de fait transformé son pays en narco-État, brassant plus de 10 milliards de dollars par an. En Espagne, l'annonce aujourd'hui du Premier ministre Pedro Sanchez ne passe pas inaperçue. Il veut interdire l'achat de logements en Espagne par des investisseurs non européens et non résidents qui, selon lui, ne font que spéculer. Le tout, Mathias Trude, afin de lutter contre la crise du logement que traverse l'Espagne à la location comme à l'achat.
Et oui, elle s'illustre avec ce chiffre, 27 000, c'est le nombre de maisons et d'appartements que des non-résidents de l'Union européenne ont acheté en Espagne rien qu'en 2023. Et c'est le nombre que met justement en avant le Premier ministre Pedro Sanchez pour justifier cette interdiction. Concrètement, les ressortissants des pays hors de l'espace économique européen ne pourront plus acheter de logement si ni eux ni leur famille ne résident en Espagne. Une manière de freiner la spéculation immobilière, c'est-à-dire l'achat d'habitations non pas pour y habiter, mais pour le profit. Pedro Sanchez s'inspire donc du Danemark et du Canada, où des mesures similaires sont en place. Il devra toutefois recevoir l'aval du Parlement, sauf que son gouvernement y est minoritaire. Ce que le Premier ministre socialiste a déjà réussi à faire adopter, en revanche, c'est une grande loi logement votée il y a 2 ans. Elle prévoit plus de logements sociaux, des loyers encadrés dans les zones tendues et des pénalités pour les propriétaires de logements inoccupés. Des mesures qui n'ont cependant pas ralenti la hausse des loyers. Ils ont encore augmenté de 11% l'année dernière.
Dossier suivi par Mathias Troude. Comme prévu, les 170 millions d'utilisateurs américains n'ont plus accès ce dimanche au réseau propriété chinoise TikTok. Ils sont accueillis par un message expliquant que la loi interdit la connexion pour le moment, puisque Donald Trump a annoncé il y a quelques heures qu'il va suspendre la loi dès demain par décret et proposer, pour régler le problème, que le réseau social soit contrôlé pour moitié par des actionnaires américains. De fait, le patron chinois de TikTok est invité à son investiture demain lundi. Il fait même partie des invités d'honneur. Présence d'autant plus remarquée que demain, il fera moins 12 degrés à Washington. Résultat, la cérémonie se déroulera non pas à l'extérieur comme c'est la tradition, mais à l'intérieur du Capitole où il n'y a que 600 places. Des représentants et dirigeants étrangers invités, mais aussi des personnalités qui ont payé cher pour participer. Le comité d'investiture du président élu a reçu 170 millions de dollars pour sa prestation de serment. C'est tout simplement un record. Au pays du business, Carlotta Morteo, les Américains fortunés ont donné de très grosses sommes d'argent dans l'espoir d'obtenir quelques faveurs.
1 million de dollars, c'est la somme versée au comité d'investiture de Donald Trump par les géants de l'automobile, Ford, General Motors, Stellantis, Toyota ou les leaders de la tech, Google et Microsoft. C'est le double de ce qu'ils avaient donné à Joe Biden et à ce prix, ils auront le privilège de s'entretenir brièvement avec le président américain et son vice-président J.D. Vance. Les multinationales craignent par-dessus tout les droits de douane que veut imposer Donald Trump au Mexique ou à la Chine, des pays où de nombreuses entreprises américaines ont des usines et des activités. Les grands patrons réussiront-ils à convaincre un président dont on dit qu'il a une vision transactionnelle de la politique ? L'un des plus généreux donateurs, Tim Cook, à la tête d'Apple, avait réussi lors du premier mandat Trump à obtenir des exemptions de taxes pour les produits de la marque à la pomme. Déjà très influents, les patrons de Amazon, Meta, OpenAI ou Uber ont contribué à titre personnel des sommes à 7 chiffres, de quoi leur ouvrir les portes du dîner aux chandelles et des bals fastueux. D'autres qui ont préféré rester anonymes ont payé des sommes tout aussi mirobolantes alors même qu'ils ne pourront pas y participer car l'événement affiche complet depuis plusieurs semaines.
Carlotta Morteo, tout ce beau monde pour entendre Village People. Vous connaissez forcément leur tube disco YMCA, une chanson devenue un passage incontournable des meetings de Donald Trump. Jusque-là, ça ne plaisait pas trop aux membres fondateurs du groupe. Visiblement, la vérité a changé, de Monsalaka.
Pour le fondateur des Village People, Victor Willis, la musique doit vivre sans considération politique. Cette réflexion, il l'a partagée cette semaine sur ses réseaux sociaux et elle constitue un revirement à 180 degrés de la part du seul membre restant de la formation originale. Car il y a peu de temps, c'est ce même Victor Willis qui s'agaçait publiquement de voir Donald Trump s'approprier YMCA dans ses meetings et exécuter quelques pas de danse sur cette musique. Aujourd'hui, le groupe disco ne trouve donc plus rien à redire face à cette réappropriation. Il est loin d'être le seul d'ailleurs à se rapprocher du président élu dans le sillage d'autres personnalités publiques comme tout récemment le patron de Facebook, Mark Zuckerberg ou encore avant lui le milliardaire Elon Musk. Mais dans le cas des Village People, leur présence à la cérémonie d'investiture est d'autant plus surprenante que la formation est considérée depuis toujours comme un porte-étendard de la communauté homosexuelle. On est donc à des années lumière de la politique anti-LGBT prônée par le futur chef de la Maison Blanche.
Elmon Salaka et RFI vous fera vivre aux premières loges radiophoniques la cérémonie en direct et dès demain matin, édition spéciale sur Radio France Internationale. Il est midi 10 à Washington.